Rio 2016, les Jeux continuent. Voici Alexandre Coupal.
La plus cordiale des bienvenues, mesdames et messieurs, à ce nouveau rendez-vous paralympique qui fera la démonstration jusqu'à dimanche, le 18 septembre, que les Jeux se continuent bel et bien en provenance de Rio, bien évidemment. Cette paralympiade, si je peux utiliser le néologisme, on sera d'ailleurs tout au long de ces Jeux souvent sur place. Je vous donne une idée générale et ensuite je vous donne le menu de cette première émission. Idée générale, donc, quand je vous dis que nous serons sur place, on aura le plaisir d'aller rejoindre quotidiennement des collaborateurs à Rio. En alternance, Émilie Bouchard-Labonté, qui est rédactrice et journaliste pour Sportcom, que vous avez déjà entendu d'ailleurs à cette antenne, et également Vincent Lockman de notre station cousine Vivre FM. Ils seront nos yeux, nos oreilles et nos espions sur place alors qu'on leur parlera quotidiennement. Et dans cette trame, on s'entretiendra avec des experts parce qu'on veut se donner le mandat de rapporter les Jeux, de rapporter les résultats, mais aussi d'en apprendre davantage. Et en alternance ou de façon ponctuelle, certains experts viendront nous présenter plus en détail leur discipline. Et bien évidemment, nous serons en contact quasi quotidien avec les athlètes, avec les acteurs et les actrices de ceux qui feront ces Jeux paralympiques. Je prends 3 secondes pour me présenter. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ça va bientôt faire 10 ans que je trempe dans la couverture sportive, plus souvent qu'autrement à la radio publique, pour ne pas la nommer. J'ai eu le plaisir aussi de travailler sur les Jeux de Rio, en direct de Montréal, cela dit, mais n'empêche, on était de cette grande équipe olympique qui a couvert les Jeux à Radio-Canada. Et tout au long de cette émission, je serai accompagné de Philippe Asselin, qui, en plus de s'occuper de la production de cette émission, viendra vous offrir les résultats quotidiens, viendra vous présenter aussi certains grands pans de l'histoire paralympique. D'ailleurs, on se fera une petite introduction en ce sens dans quelques minutes. Le menu de cette grande première, eh bien, elle incarne les Jeux paralympiques. Chantal Petitclerc est notre invitée. On lui a parlé un petit peu plus tôt. Je vous ferai entendre ce qu'elle avait à nous raconter. En marge, non seulement des paras, mais aussi des Jeux olympiques, il y a été abondamment question de dopage. Vous le savez maintenant, peut-être, tous les athlètes de la délégation paralympique russe sont suspendus, ne seront pas de ces Jeux, alors qu'habituellement, la Russie se trouve dans les hauteurs du classement des médailles. Avec mon collègue Robert Frozzi, j'en ai profité pour l'inviter. On va discuter de tout ça. Robert qui suit de près les histoires de dopage depuis plusieurs années maintenant. Donc, on va tenter d'y voir un peu plus clair. Et chose due, on va terminer cette première heure, cette première demi-heure avec Émilie Bouchard-Labonté, donc l'une de nos deux espions sur place. Elle viendra nous raconter notamment comment ça se passe, à quoi ça ressemble, à quelques jours, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture et à quelques jours des premières compétitions. Et il y a également le porte-drapeau canadien qui a été nommé un peu plus tôt aujourd'hui. On reviendra là-dessus. Il s'agit d'un basketteur en fauteuil roulant. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour.
Alors, commençons avec l'essentiel. Est-ce qu'il fait beau à Rio?
Il fait très beau à Rio depuis plus d'une semaine.
C'est une constante, c'est une bonne chose.
Oui, absolument.
Toi qui as évidemment beaucoup, beaucoup d'expérience en tant qu'athlète aux Paralympiques, 5 Olympiades au total, moi, je suis curieux de savoir, au niveau de la fébrilité, c'est quoi la différence ou les nuances entre celle qui habite l'athlète qui va commencer et celle qui habite la chef de mission là, qui en sera à ses premiers Paralympiques?
Ah, ben c'est sûr que l'adrénaline, c'est complètement différent là, quand on est un chef de mission versus un athlète. Je dirais que quand j'étais athlète, je dormais pas beaucoup les mois avant les Jeux. chef de mission. On arrive ici et puis là, on dirait que ça se construit parce que notre équipe arrive, on partage des temps avec eux, des moments avec eux, on va les voir à l'entraînement. Puis là, quand on approche de la cérémonie d'ouverture, ben là, on a des petits papillons qui arrivent parce que on sent leur fébrilité. Puis comme j'ai déjà été là, ben je sais c'est quoi un petit peu là, la pression, l'adrénaline et puis le désir aussi là, de commencer. Donc oui, c'est complètement différent, mais dans les deux cas, c'est une super belle expérience.
Es-tu très sollicité? Est-ce qu'ils sont nombreux, nombreuses à vouloir tes conseils, tes impressions?
Oui, beaucoup, beaucoup plus que je pensais en fait, hein, parce que moi, je suis arrivée ici avec une attitude très respectueuse de l'athlète et de son équipe. Je pense que les athlètes d'aujourd'hui, si on compare à quand j'ai commencé, je suis débarquée à Barcelone, j'étais toute seule avec mon entraîneur. Là, les athlètes aujourd'hui, ils sont ici, ils ont leurs entraîneurs, leurs psychologues sportifs, ils ont leurs équipes médicales, tout ça. Donc, nous, comme chef de mission, c'est d'être très, très disponible, en même temps, très respectueux de cette équipe-là, puis de pas entrer dans une bulle sans qu'on y soit invité, je dirais. Et moi, ça, c'est super important parce que je sais comment c'est fragile la préparation d'un athlète avant les Jeux. Donc, tu veux être disponible, mais tu veux vraiment, vraiment pas t'imposer. Mais je dirais que j'ai été vraiment touchée parce que les athlètes viennent me voir, me posent des questions, me remercient des petits discours que j'ai faits. Donc, je sens que j'ai un impact. Et je sens que toute mon expertise aussi que j'amène avec moi comme chef, ben je peux la repasser aux athlètes.
Il serait fou de s'en priver, si tu veux mon opinion. Je me posais la question, j'ai cherché vite, mais est-ce qu'il y a des objectifs pour la délégation canadienne? Tu sais, avant les Jeux, il y en a été grandement cas. Est-ce qu'on a des objectifs en termes de médailles chiffrées pour les Paralympiques?
Oui, absolument. Nous, comme équipe, on est arrivé ici avec 162 athlètes dans 19 sports et on aimerait repartir avec une position, un top 16 dans le tableau des médailles. Ça, c'est un objectif qui est réaliste, mais qui est quand même assez ambitieux. À Londres, on avait fait 20, top 20. Et donc, pour réaliser ça, là, il va vraiment falloir que tout le monde soit capable de livrer sa meilleure performance. Faut comprendre qu'on est il y a quand même plusieurs. On a déjà été des leaders un peu plus. On a déjà fait des top 3, tout ça là dans le cumulatif au tableau des pays. Mais on est vraiment dans une équipe où là, il y a un contexte international où de plus en plus de sports qui auparavant n'investissaient pas tant que ça dans leurs sports et dans leurs athlètes paralympiques se sont mis à investir énormément là depuis 10-15 ans. Et là, tous ces sports-là sont hyper compétitifs. Et ça, jumelé avec une équipe qui a des vétérans, c'est vrai, mais qui a beaucoup de relève, beaucoup de jeunes. Donc, si on est capable là, de livrer notre marchandise, dans le fond, de terminer dans le top 16, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction et puis que c'est nous, notre objectif, dans le fond, là, c'est de remonter comme leader dans le monde là, dans deux Jeux paralympiques. Donc, si on réussit à faire ça, là, ça veut dire qu'on est vraiment dans la bonne direction puis on va être très, très heureux de ça.
Sens-tu que la bonne prestation de l'équipe aux Jeux olympiques, ça inspire les athlètes qui sont là pour les paras?
Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je veux dire, tout le monde a regardé un petit peu les Jeux olympiques et puis l'atmosphère était super bonne, la performance était bonne. Et c'est sûr que nos athlètes arrivent ici sont inspirés, d'autant plus que dans plusieurs sports, les athlètes olympiques, ben c'est leur partenaire d'entraînement, donc ils les connaissent, ils ont regardé les compétitions et puis là ils arrivent ici puis ils veulent se dépasser. Donc ça c'est sûr que c'est un facteur positif. Un autre facteur positif, je dirais, c'est d'avoir été les hôtes des Jeux Paname et Parapaname l'année passée. Ça a donné vraiment une expérience, surtout à nos jeunes athlètes. Une expérience de compétition internationale avec de la pression, avec des médias, avec les salles, les lieux de compétition pleins. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir un peu l'effet. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans l'importance d'accueillir des événements sportifs et d'être un pays hôte le plus qu'on peut. Donc, je pense qu'on va avoir des résultats ouais. aussi.
Non, les performances auxquelles on a été, desquelles on a été témoin il y a quelques semaines maintenant vont en ce sens-là aussi. Un petit mot sur Londres, la dernière Olympiade qui... Pour plusieurs, ça a été les plus beaux Jeux paralympiques, je ne veux pas dire de l'histoire, mais ça a certainement été des Jeux marquants. Comment on aborde Rio dans ce contexte-là?
C'est clair que les Jeux paralympiques de Londres ont été des Jeux exceptionnels là, pour plein de raisons. C'est d'une part, c'est là qu'est né le sport paralympique. Ouais. Donc, ils ont toute cette culture paralympique, cet accueil des athlètes paralympiques qui vraiment existe nulle part ailleurs sur la planète. En plus, bon, ils avaient les moyens de faire des jeux à la hauteur là, de quelque chose qu'on n'avait jamais vu aux Paralympiques. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une mauvaise foi de vouloir comparer. Hein. Je pense qu'un pays qui nous reçoit, il nous reçoit avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il a. C'est ce que les Jeux de Londres ont fait. C'est ce que les Jeux de Rio vont faire. Et c'est bien parfait comme ça. Les athlètes qui sont ici le comprennent très bien. Et puis tout le monde est super positif, super de bonne humeur et personne ne compare avec Londres parce que c'est deux jeux qui sont différents avec deux pays qui sont différents et qui peuvent offrir quelque chose de différent.
Je voulais poser la question aussi dans le sens où est-ce qu'il y a un espoir que Londres ait redonné un certain souffle à l'organisation des Paralympiques?
Je dirais que les Jeux de Londres... Ça a probablement eu un impact super positif pour plusieurs pays qui ont vu un petit peu l'ambition qu'on pouvait avoir dans des sports, dans des Jeux paralympiques. En fait, ça a vraiment donné à tout le monde l'idée de « OK, c'est ça que ça peut être les Jeux paralympiques et pourquoi est-ce que ça pourrait pas être ça chez nous comme pays, comme sport? » Donc, c'est sûr que ça a eu un effet super positif parce que il y avait la publicité, il y avait les produits dérivés, il y avait des trucs qu'on n'a jamais vus. Là. Et c'est bien difficile de quantifier l'impact de ces jeux-là, mais c'est clair que c'est un impact très, très positif. Ça devient un objectif aussi de se dire, si les athlètes paralympiques peuvent avoir ce genre de reconnaissance-là à Londres, ben pourquoi pas chez nous, puis pourquoi pas partout dans le monde.
En terminant, Chantal, une petite question sur la grosse annonce de la journée. D'ailleurs, une de tes premières de grandes tâches, j'imagine, celle que d'annoncer le porte-drapeau, le basketteur en fauteuil roulant, David Eng, qui a un pedigree qui parle de lui-même.
Non, absolument. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle, belle façon de commencer la journée avec l'annonce de notre porte-drapeau, David Eng, qui, en plus d'être un ami, et surtout est un athlète accompli, médaillé d'or, médaillé d'argent au basketball, une équipe qui vraiment, pendant des années, a été un peu l'équipe phare, l'équipe vedette aussi de notre équipe paralympique. Donc, c'était vraiment un beau moment pour lui. Il était très, très heureux de ça. Et puis moi, comme chef de mission, ben quand on a commencé les sélections, je me disais j'ai le goût de quelqu'un qui va être devant nous demain quand on sera aux cérémonies d'ouverture et dont tous les athlètes pourront être fiers et contents pour lui. Et c'est exactement ce qui se produit. Déjà, j'ai plein d'athlètes, d'entraîneurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Oh mon Dieu, je suis tellement contente pour lui. Non seulement c'est un bon athlète, mais c'est tellement une bonne personne et un bon leader aussi. » Donc, on est vraiment, vraiment contents de ça.
Chantal Petitclerc, chef de mission du Canada pour ces Jeux paralympiques de Rio, un grand merci pour ces quelques minutes. Et bien sûr, on te souhaite une dizaine à la hauteur de tes espérances.
Merci beaucoup.
Une grosse dizaine, 11 jours de compétition au programme à partir de jeudi. Il sera la voix des résultats et la voix de l'histoire aussi tout au long de cette série, Philippe Asselin. On commence tranquillement avec ce qui aura été le point de départ des Jeux paralympiques.
Oui, l'ancêtre des Jeux paralympiques, Alexandre. Pour retrouver l'origine des Jeux, donc il faut remonter à une cinquantaine d'années en Angleterre où c'est un médecin, Sir Ludwig Goodman, qui se met en tête d'améliorer la qualité de vie des blessés de la Seconde Guerre mondiale. Donc à partir de là, il organise ses jeux dans la cour de son hôpital, qu'on appellera plus tard les Jeux de Stockmanville. Donc les premiers jeux contemporains auront seulement une épreuve, Et il s'agit d'anciens combattants qui forment deux équipes pour s'affronter au tir à l'arc. C'est en 1948 exactement, au même moment que les Jeux olympiques de Londres, ils organisent les Jeux internationaux en fauteuil roulant, donc les Jeux de Stockmanville. Pour revenir sur ce personnage-là, qui est lui le fondateur vraiment des Jeux paralympiques, Ludwig Goodman, c'est un Allemand qui est né en 1899 à Vojvodi en Slovénie. Donc lui, c'est un neurochirurgien qui était l'un des... un éminent neurologue, pardon, qui était avant la Seconde Guerre mondiale, travaillait pour un hôpital juif de Breslau. Alors, il a dû fuir l'Allemagne nazie. En 1944, le gouvernement britannique lui demande de fonder le National Spinal Injury Center, donc Centre national des blessés de la moelle épinière, à Stockmanville, près de Londres, au sein de l'hôpital de Stockmanville. En effet, lors de la Première Guerre mondiale, à peu près 95% des patients atteints à la moelle épinière en mouraient. Donc le plus souvent au cours des deux premières semaines. Donc lui a fait des recherches pour aider cette condition-là. Et le 28 juillet 1948, c'était à la veille des Jeux olympiques d'été, il a organisé donc ses premiers Jeux. En 1952, 4 ans plus tard, plus de 130 compétiteurs internationaux s'y rassemblaient. Quand même, déjà là, une belle amélioration donc, au niveau des Jeux paralympiques. Ouais. Et 4 ans plus tard, en 1956, le CIO reconnaît les Jeux comme des Jeux sportifs. Ludwig Goodman a reçu la Coupe Fearnley, une récompense pour sa contribution majeure à l'idéal olympique. Les Jeux de Stockmanville passent alors à des fins thérapeutiques et médicales à une pratique compétitive pour les personnes handicapées. La suite demain, Alexandre, qui en 1960, donc je vous donne tous les détails demain.
Ça a pris beaucoup de place avant les Jeux, pendant les Jeux, depuis les Jeux, les histoires de dopage, dopage d'État, c'est comme ça qu'on a appelé ça en Russie. Le rapport McLaren qui a fait le lien entre le gouvernement russe et l'Agence mondiale antidopage russe et un système qui avait été mis en place pour systématiquement que les athlètes aient accès au dopage. Si tant est que le comité paralympique international a décidé de suspendre tous les athlètes russes pour observer tout ça en détail et pour voir si j'ai pas dit d'annerie jusqu'à maintenant, j'accueille avec beaucoup de plaisir mon collègue Robert Frozzi. Salut Robert.
Bonjour.
Alors, c'est un peu comme ça que ça s'est passé et on voulait, on souhaitait ardemment que le CIO suspende ou enfin que quelqu'un suspende les athlètes avant les Jeux olympiques. Le comité paralympique, lui, a eu quoi, le courage de faire ça?
Je dirais pas le courage. En fait, faut reconsidérer en fait toute la décision qui a été prise à la fois par le CIO et à la fois par le comité paralympique. D'abord, il faut dire que ce sont deux organismes distincts. Le comité olympique international est complètement distinct du comité paralympique. Donc, chacun en fait a juridiction pour prendre une décision. Dans le cas du CIO, on a ménagé la chèvre et le chou, et je dirais même le fermier, parce qu'on a fait quelque chose qui a arrangé un petit peu tout le monde. La Fédération internationale d'athlétisme a exclu la totalité des athlètes, le comité paralympique lui a décidé d'exclure toute la délégation. Maintenant, la question qu'on doit se poser, et qui est très délicate en fait, oui, on parle d'un dopage d'État en Russie. Le rapport McLaren ne nous a pas donné forcément la liste, je dirais toute la nomenclature en fait de tous les athlètes qui auraient été reconnus coupables de dopage. Et c'est là que le bât blesse un petit peu, c'est qu'il y a des athlètes qui ont été exclus, qui n'ont jamais été testés positifs. Je pense par exemple à la perchiste Yelena Izimbayeva. Alors on se dit, qui paye finalement? Est-ce que c'est d'abord, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas des enjeux politique important. D'autre part, quand on sait par exemple que la Russie est un énorme bailleur de fonds de tous les grands événements sportifs, on ne voulait pas trop se mettre à dos du côté du Comité international olympique. Vladimir Poutine, on le sait, grand ami de Thomas Bach, le président du CIO, et aussi une manne financière importante. C'est eux qui organisent la prochaine Coupe du Monde de soccer, etc. Donc, d'un côté, est-ce que c'est l'argent et la politique qui l'a emporté? D'un autre côté, doit-on blâmer l'intégralité, l'ensemble des athlètes? Effectivement, il y a une question qui se pose. Maintenant, on envoie un message assez clair au dopage d'État qui existe encore dans certains États, on ne l'a pas encore dévoilé, mais il existe et on le sait, il y a des enquêteurs qui travaillent là-dessus. Maintenant, la question qu'on doit se poser, doit-on blâmer l'ensemble d'une délégation s'il y a juste quelques brebis galeuses. Quoi.
Et surtout que, dépendamment des, enfin, les différents rapports qui faisaient état, les différents articles qui faisaient état de ce rapport, on parle de quelques dizaines d'athlètes paralympiques dont les échantillons étaient douteux. Mm-hmm. Et comme tu disais, Robert, on ne sait pas, on connaît pas le détail, on ne sait pas de qui il s'agit, puis on ne sait pas jusqu'à quel point il était question de dopage. Il y a quelque chose d'ironique, non, que la vraie, la réponse dure ou le commentaire fort soit envoyé par le comité paralympique au lieu du comité olympique, même si on comprend bien les enjeux politiques et financiers, surtout là, derrière l'espèce de politique du deux poids deux mesures du CIO.
Mais ce qui me gêne un peu, en fait, dans, que ce soit dans la décision du CIO ou la décision du comité paralympique international, c'est qu'il y a le mot dopage, mais il y a le mot otage aussi. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a des athlètes qui sont pris en otage. J'ai vu un excellent reportage de mon confrère Raymond Saint-Pierre il y a quelques jours où on voyait carrément des athlètes en larmes, des athlètes complètement désemparés. Je dirais même qui étaient complètement abasourdis par l'exclusion. Des athlètes qui se préparent au même titre que n'importe quel athlète qui participe aux Jeux Olympiques. Et là encore, il va falloir travailler pour expliquer aux gens que les athlètes qui sont aux Paralympiques sont des athlètes à part entière. Et donc, je me dis... Des athlètes qui ont été pris en otage par un système, je dirais, politisé, étatique, qui a encore besoin de cette vitrine sportive pour faire avancer sa vitrine idéologique. De triste mémoire, on se souvient l'Allemagne de l'Est qui avait fait exactement le même travail. La Chine qui continue aussi à faire son travail. La Corée qui continue à faire son travail aussi. Alors, doit-on, sous prétexte d'un rapport qui est accablant pour le gouvernement russe, qui est clair, et il faut le prendre effectivement en considération. D'un autre côté, il y a des athlètes là-dedans qui sont pris en otage, et j'ai l'impression qui sont pris en otage dans un jeu, je dirais, idéologique et politique qu'ils ne maîtrisent pas, eux. Et c'est ça qui est un peu dommage là-dedans, c'est que, bah, ce sont encore une fois les athlètes qui payent, alors que quelques décideurs, quelques responsables ont été mis hors de combat, je dirais. Il y a eu une démission fracassante d'un certain nombre de gens. Il y a eu aussi en Russie des disparitions de gens qui sont liés à ce dossier-là, des disparitions. Et on se doute que ces gens-là ont été tués. On n'a pas encore toutes les preuves. Mais on est dans une espèce de roman, je dirais, à la fois de politique, d'espionnage, mais un mauvais roman. Ouais. Et les acteurs sont, encore une fois, les acteurs qui ont été pris en otage sont les athlètes.
Et où il n'y a pas de justice, que ce soit pour les athlètes qui sont allés aux Jeux et qui n'auraient pas dû y aller, ou que ce soit pour les athlètes paralympiques qui ne seront pas assez parents.
Parce qu'il y avait, Alexandre, il y avait deux poids, deux mesures. Quand on voit, par exemple, que sur une même piste d'athlétisme, on avait aussi, on avait exclu les Russes, et puis on avait Justin Gatlin, l'Américain, qui était deux fois de retour de suspension pour dopage. Alors, il y a comme un espèce de non-sens, quelque part, et je pense que du côté du CIO, on n'a pas envoyé le bon message. Du côté du comité paralympique, on a voulu envoyer un message clair, retentissant, mais est-ce qu'on a pris en compte la dimension de tous les athlètes? Je ne crois pas.
Non, et ça fait certainement plusieurs victimes. Robert Frozzi, toujours un plaisir de t'entendre. D'ailleurs, on va te réentendre. Je sais que tu retournes à Rio. Alors, oui. J'invite tous et toutes à suivre ça d'un œil avisé. Merci encore, Robert. Au plaisir.
C'est un plaisir.
Et sur le terrain, on va tout de suite rejoindre l'une de nos collaboratrices, la journaliste de Sportcom, Émilie Bouchard-Labonté. Bonjour, Émilie.
Bonjour, Alexandre.
Est-ce que c'est commencé? Est-ce que ça commence? Dans quelle ambiance est-ce qu'on se trouve présentement?
C'est pas commencé, mais ça commence bientôt dans plus que 24 heures avec la cérémonie d'ouverture des Jeux. Mais ça brasse quand même. Plein de délégations d'athlètes, évidemment, sont arrivées. Les journalistes reprennent le centre de presse d'assaut. Donc, ça bouge pas mal, là.
C'est ça. Là, évidemment, ça va arriver de plus en plus. Toutes les délégations vont converger vers Rio. Maintenant, tu as eu le plaisir aujourd'hui. C'était pas mal la première grosse activité, j'imagine, là, celle de l'annonce du porte-drapeau canadien. Tu as eu le plaisir d'être là à la conférence de presse.
Exactement, une conférence de presse qui a été donnée directement dans le village des athlètes, donc ça m'a permis de voir un peu qu'est-ce que le village des athlètes avait l'air. Donc, conférence de presse du Comité paralympique canadien qui a annoncé le porte-drapeau qui mènera la délégation canadienne lors des cérémonies d'ouverture demain soir. Et c'est David Hang, joueur de basket en fauteuil roulant, qui aura cet honneur.
Est-ce que il y a toujours des prédictions qui se font? Est-ce qu'il y avait une rumeur qui courait? Était-il le favori avant que l'annonce soit faite?
Je n'avais pas entendu particulièrement des rumeurs sur le sujet. Nous, de notre côté, il faisait partie des athlètes là, qui pouvaient faire partie de ce lot d'athlètes-là susceptibles de porter le drapeau. David, là, c'est un athlète, ça va être ses 4e Jeux paralympiques, 3 médailles à son actif, dont 2 médailles d'or. Donc, on s'entend que c'est vraiment un athlète qui était complètement fait pour, en plus reconnu pour son leadership, autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Alors, c'est un rôle taillé sur mesure pour David demain soir.
Et dans une équipe de haut niveau qui va défendre sa médaille d'or, justement, la médaille acquise à Londres, mais un palmarès avant ça qui est assez éloquent aussi. On est pas mal toujours sur le podium, mais pas mal toujours sur les plus hautes marches. Cette conférence de presse-là avait lieu au village des athlètes. À quoi est-ce que ça ressemble?
Bien, on peut voir, si vous avez vu des images pendant les Jeux olympiques, vous avez entendu parler, il y a plusieurs autres tours avec des appartements. Les couleurs sont affichées avec plein de drapeaux pour montrer à quel endroit là, les athlètes du pays. Donc, j'ai pu apercevoir quelques drapeaux canadiens. Mais aussi, dès qu'on rentre dans le village des athlètes, les journalistes, on a accès à la Plaza internationale, parce qu'évidemment, les journalistes, on n'a pas accès au village où les athlètes logent en tant que tels. Mais c'est très intéressant. Dans la Plaza internationale, c'est là, entre autres, qu'il y a les cérémonies de levée du drapeau, qui en fait l'hymne national qui annonce le drapeau qui se lève sur un mât. Ouais. Ça, pour les Canadiens, ça a eu lieu hier soir. Donc, tous les Canadiens, athlètes canadiens déjà à Rio, se sont réunis pour cette cérémonie-là. Alors, beaucoup d'activités, de la danse, j'ai aperçu une petite scène, alors sûrement qu'il y a souvent des spectacles là pendant les Jeux, et un bureau de poste si les athlètes veulent communiquer par carte postale, probablement envoyé par leur famille. Donc, ça bougeait déjà beaucoup à ce niveau-là.
Émilie, en 15 secondes, l'ambiance par rapport aux Jeux, parce que tu y étais il y a quelques semaines, est-ce qu'on est dans les mêmes niveaux de fête?
J'étais pas à Rio, moi, pour les Jeux olympiques. C'est mon collègue Mathieu Laberge qui était sur place. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde quand même au niveau de l'excitation là, de ce côté-ci. Bon, c'est sûr que c'est un peu plus tranquille présentement, mais les Jeux, les premières journées de compétition vont avoir lieu jeudi, en fait. Et puis demain, même la cérémonie d'ouverture, ça va être à Maracana, donc dans le centre de Rio. Ici, présentement, dans le parc olympique paralympique, c'est un peu plus calme au niveau de ça, mais on voit beaucoup d'athlètes quand même qui sont présents pour profiter des dernières journées de compétition, d'entraînement avant.
D'entraînement avant les compétitions. Et nous, on aura l'occasion de se retrouver régulièrement. Émilie, un grand merci pour ces quelques minutes et à très bientôt. Émilie Bouchard-Labonté de Sportcom nous parlait en direct de Rio. J'en profite pour remercier nos invités Chantal Petitclerc, Robert Frozzi. Un gros merci à Philippe Asselin également et à Jean-Sébastien Laliberté à la console. On se retrouve demain, 15h, pour la deuxième de Rio. Les Jeux continuent. Allez, bonne fin de journée.